On continue dans notre étude de la parole de Dieu dans l'évangile de Marc et on est arrivé au chapitre 6. Et comme on n'a plus peur maintenant de lire des grandes portions des Écritures, je vous propose d'en faire la lecture. Je lis à partir donc du verset 1er, chapitre 6, Marc. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ça c'est Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde décapita Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque, pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de faire tous asseoir par groupe, de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Aussitôt après, il les obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le début du chapitre, de ce chapitre 6, est vraiment surprenant. Il est surprenant parce que la scène se déroule à Nazareth, la ville dans laquelle le Seigneur Jésus a grandi et dans laquelle il a travaillé. Il revient donc dans sa propre ville, il entre le jour du sabbat dans la synagogue et puis il enseigne. Ceux qui sont là, ils sont vraiment frappés par l'enseignement. Ils sont impressionnés par sa sagesse. Ils sont stupéfaits par ses miracles. Mais parce qu'ils l'ont vu grandir, et parce qu'ils l'ont vu reprendre l'atelier de son père, et parce qu'ils connaissent son origine sociale modeste, parce qu'ils connaissent son faible niveau d'éducation, et l'absence totale de diplôme de théologie, ils sont profondément offensés de voir Jésus adopter une attitude de grand docteur. Et comme il est dit au verset, à la fin du verset 3, il était pour eux une occasion de chute. C'est-à-dire, ils ne veulent juste pas croire en lui. Ils le méprisent. Mais pour qui il se prend, lui ? Leur curiosité, elle est à la fois piquée au vif, mais ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas en entendre davantage. Mes amis, quand nous croyons en Christ et que nous commençons à parler à nos familles, à ceux qui nous connaissent de ce que Christ a fait pour nous et comment il nous a aimés et comment il nous a sauvés, et il n'est pas rare que nous recevions le même accueil. Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Vous savez, quand les hommes ne peuvent pas réfuter le message de Christ, « Alors les incroyants n'hésitent pas à s'en prendre à Christ et à ceux qui parlent en son nom. Dans l'année qu'on a eue, on a vu des têtes décapitées de jeunes chrétiens, fidèles au message de l'Évangile. Leur seule accusation, c'était « ils sont coupables de croire en Jésus-Christ ». Ils sont coupables d'annoncer le message du salut en Jésus-Christ. Leurs vies sont saintes. Ils sont connus pour être des hommes pieux, sages, bons. Mais on les décapite à cause de cela. Et pour nous, à la fois, c'est troublant. Parce qu'on se dit, waouh, il semble que l'opposition est telle qu'on pourrait nous aussi connaître la persécution. Et peut-être même la mort. Dans notre Église, des gens ont été frappés. Des gens ont dû fuir leur pays. Simplement à cause de la persécution. Aujourd'hui encore, on met à mort. Et à la fois, ce qui nous trouble, c'est comment est-ce que le Dieu si grand, si puissant, si aimant, qui veille tellement sur ses enfants, qui prend un soin tout particulier, qui est plein de compassion, de miséricorde, d'attention, qui pourvoit admirablement au-dessus de tout ce que l'on peut penser et imaginer, comment ce Dieu-là peut permettre qu'on coupe une tête à un de ses plus fidèles serviteurs. Et ça nous trouble. La réalité, c'est qu'en tant que disciples de Christ, nous rencontrerons de l'opposition, peut-être même la persécution. Mais en toutes circonstances, nous devons apprendre à faire confiance à la sage providence de Dieu. Dans toutes circonstances, favorables ou non, nous devons apprendre à faire confiance à la sage providence divine. Et cette vérité, elle est illustrée ici par deux festins. Le premier, c'est le festin d'Hérode, et on verra ensuite le festin de Jésus-Christ. Voyons tout d'abord le festin d'Hérode. Après que Jésus ait été méprisé dans sa propre ville, par sa propre famille, ses frères ne croient pas en lui, hein, je vous le rappelle, à ce moment-là. Il envoie ses disciples, les douze, avec la puissance de faire des miracles et avec la prédication du message de la repentance. Il multiplie dans les environs son influence par douze. Il est en train de dire, ah, vous ne voulez pas m'écouter? Vous allez en écouter d'autres alors. Et pour la plupart, ce sont aussi des Galiléens. Et ils vont parcourir tous les villages alentour de Nazareth. Et ils vont faire connaître le message de Jésus-Christ. Au point que rapidement, la renommée de Jésus, hein, puisque les miracles opérés par les disciples et leurs prédications sont faits au nom de Jésus. C'est pour ça que le nom de Jésus est renommé. Et donc, le nom de Jésus parvient aux oreilles d'Hérode. Il s'agit ici d'Hérode Antipas. Il est l'un des fils d'Hérode le Grand qui régnait au temps de la naissance de Jésus. Donc, Hérode le Grand, c'est le père d'Hérode Antipas, c'est celui qui a massacré les enfants de Bethléem. Hérode le Grand, il avait eu 10 femmes. Donc il avait aussi pas mal d'enfants. C'était un homme particulièrement cruel. Il ne s'embarrassait pas du divorce, lui. Il préférait être veuf. Et donc, il a eu pas mal d'enfants. Et à sa mort, son royaume a été divisé en 4. Et c'est ce qui a donné les tétrarchies. Et on entend souvent parler de Hérode le tétrarque, c'est ici l'Hérode Antipas, il a une tétrarchie, c'est-à-dire un quart de l'ancien royaume de son père. Son royaume, à lui, à Hérode Antipas, c'est la Galilée, donc le nord du pays, et puis la Pérée, au sud-est, du côté de la mer Morte. C'est dans cette région, donc de la Pérée, qu'il avait son palais, dans la forteresse de Machéronte. Et c'est aussi là que Jean-Baptiste avait en grande partie exercé son ministère. Quand Hérode entend parler de Jésus et des miracles qu'il faisait, il se dit « Ce Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité des morts et il est là en train de me poursuivre. » Il est paniqué. Marc fait alors un flashback, hein, donc dans les versets 17 à 29, c'est une histoire qui revient en arrière. Hérode Antipas, il était marié à la fille du roi nabatéen Arétas. Son frère, alors c'est une histoire de famille là, que je vais vous raconter, donc essayez de bien suivre là. Donc Hérode Antipas, il est marié avec la fille du roi Arétas, un nabatéen. Son frère, demi-frère, Philippe, avait lui épousé une certaine Hérodias. Cette Hérodias, c'était la fille de son demi-frère, ok, sa nièce. À ce moment-là, Antipas fait une visite à son frère, Philippe, à Rome, et là, il tombe sous les charmes d'Hérodias, sa belle-sœur. Ok ? C'est aussi sa nièce. Et donc, il s'installe avec sa belle-sœur, il la ramène dans ses valises au pays, et il s'installe avec sa belle-sœur Hérodias et sa nièce, la fille d'Hérodias et de Philippe. D'accord ? Vous m'avez suivi ? Jean-Baptiste, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, lui rappelle avec insistance la vérité. Hein, au verset 18, il lui dit « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » C'est clair ? Il ne t'est pas permis. Alors, si Hérode, il était très souvent perplexe en écoutant Jean-Baptiste, et s'il tenait Jean-Baptiste pour un homme juste et saint, Hérodias, elle ne le supportait pas. Ça gâchait un peu son plaisir. Du coup, elle voulait le faire mourir. Hérode, qui ne voulait pas le faire mourir, mais qui voulait le faire taire, a décidé donc de l'enfermer dans sa prison à Machéronte, dans cette forteresse. Ce qui fait qu'il était empêché de parler maintenant, et puis il était aussi préservé des intrigues d'Hérodias qui en voulait à sa vie. Mais un jour, Hérode organise un grand festin pour son anniversaire. Les Juifs y considéraient vraiment les célébrations d'anniversaire comme des fêtes vraiment païennes. Et normalement, les Juifs ne participaient pas à ce genre de choses. Hérode, c'est pas vraiment un Juif. Et lui, il est plutôt assez branché, fête, comme les Romains. Et donc, il a organisé cette grande fête. Les Romains faisaient de ces fêtes d'anniversaire un prétexte pour faire des orgies sans retenue. Ici, ce sont que des hommes qui sont invités. Vous avez remarqué ? Généralement, c'est pas un grand gage de sobriété, hein. Au contraire, là, ils mangent, boivent, abusent autant que possible de la gente féminine. Si elle n'est pas invitée à manger, elle est invitée quand même à se présenter. Et ce sont que des hommes puissants, riches, nobles, qui vont flatter le roi. Et là, le clou du spectacle, c'est quand la fille d'Hérodias vient et danse devant ce parterre d'hommes. Tout le monde est séduit par la sensualité de la fille. Tout le monde est très excité. Et Hérode, pris par son vin et son excitation, souhaite la récompenser. Et donc il lui dit au verset 22, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donne. » Ça reste une formule. Donc, et puis il n'a pas grand-chose à donner, son royaume il ne lui appartient pas vraiment. Elle va voir sa mère, « Qu'est-ce que je dois demander ?» Et là, Hérodias dit, « Oh là, j'ai une idée. Je veux juste la tête. Pas en entier, juste la tête sur un plat de Jean-Baptiste. » Et donc elle y va. Jean-Baptiste est enfermé dans le même palais. Elle dit, « Je veux à l'instant, sur le champ, je veux sa tête. » Et à l'instant, le roi, même s'il est contrarié par cette demande, pour ne pas faire perdre la face devant ses invités, Hérode fait décapiter Jean-Baptiste. Dieu ne délivre pas toujours ses serviteurs de la persécution. Dieu ne délivre pas toujours ses serviteurs de la persécution. Ce festin, ou en tout cas pas de la manière dont on peut s'attendre. Ici, quelque part, il est délivré de l'emprisonnement. Il est enfin libre dans la gloire du Père. Ce festin révèle l'impuissance d'Hérode. C'est le roi, il règne, il semble être le despote du coin. En réalité, il est totalement impuissant. Il est roi et il est pourtant contraint d'agir contre sa conscience, contre ce qu'il sait être juste, vrai et saint. Il craint les hommes. Il est faible et parce qu'il est faible, il devient violent et meurtrier. La culpabilité lui colle à la peau jusqu'à la fin de ses jours. Et sa conscience, elle est tourmentée, elle lui fait concevoir l'idée saugrenue du retour de Jean du séjour des morts. Voyez-vous, on a tué le prophète qui annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Christ vient, et on le méprise dans sa propre maison, dans sa propre ville, et on le mettra à mort quelque temps plus tard. Alors que croyez-vous qu'on fera à ceux qui annoncent la résurrection de Jésus-Christ et son retour pour juger les vivants et les morts? Vous savez, on se dit souvent, mais non, Dieu ne va pas permettre cela. Il l'a permis pour Jean. Il l'a permis pour une quantité de prophètes de l'Ancien Testament. Il l'a permis pour son fils, son propre fils. Il pourrait bien le permettre encore pour nous. Venons-en au deuxième festin. Au verset 30, les apôtres rentrent de leur tournée, ils n'ont pas le temps de se reposer ni de manger. Jésus les invite à se mettre un peu à l'écart, ils prennent une barque pour un coin désert, loin de tout. Mais à peine ils débarquent que les gens qui ont été touchés par les apôtres rappliquent de toutes parts. Et Jésus, voyant cette foule, il est ému de compassion. Parce que c'est une foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et aussitôt, il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Il leur enseigne tellement de choses que les heures passent, et bientôt les disciples viennent et disent au Seigneur, écoute, maintenant il faudrait les renvoyer parce qu'il n'y a rien dans le coin, ils ne peuvent pas aller acheter quoi que ce soit, il faut vraiment les renvoyer parce que sinon les magasins vont fermer. Jésus leur fait cette réplique, « Donnez-leur vous-même à manger. » Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas un verset qui me plaît tant que ça. « Donnez-leur vous-même à manger. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Regardez, les disciples, ils considèrent la foule. Il y a 5 000 hommes. Alors, les dames qui organisent régulièrement les repas dans notre église, quand il y a un repas pour 200, vous voyez le volume de nourriture que ça fait. Et il n'y a pas toujours tellement de corbeilles de reste. Ici, il y a 5000 hommes. L'évangile de Matthieu rapporte 5000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants. Si on suppose, ce qui est tout à fait probable, qu'il y avait autant de femmes que d'hommes, il y avait aussi 5000 femmes. Et si on imagine qu'il y avait autant d'enfants que d'adultes, on est déjà à 20 000. La Bible dit ici une grande foule. Peut-être 20 ou 25 000 personnes réunies. Ils se disent, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, 200 deniers c'est 8 mois de salaire d'un ouvrier de l'époque. Ça ne suffirait pas pour que chacun en ait un peu. Et Jésus leur avait prescrit, au verset 8 de ce passage, de ne pas prendre d'argent avec eux. Donc, ils n'ont rien. Jésus leur demande, dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont rien. C'est juste pour qu'ils comprennent que c'est totalement impossible. La situation, elle est à vue humaine, totalement impossible. Jésus leur demande un truc qu'ils ne peuvent pas faire. Alors Jésus finit par leur dire, mais qu'est-ce que vous avez à manger ? Ils font le tour, ils tombent sur un petit garçon qui avait un goûter. À 12, il lui arrache son goûter. Et puis ils viennent devant Jésus en disant, on a trouvé 5 pains et 2 poissons. Le mot pour pain, ça fait plutôt référence à des petits pains, vous savez, ces petits pains plats, les petites galettes. N'imaginez pas 5 grosses flûtes toulousaines ou des grosses miches de pain. Il n'y a aucune maman qui donnerait 5 grosses miches à son enfant pour le pique-nique. Non, non, non. Ce sont des petits pains. Et puis, ce sont 2 petits poissons plats. Voilà, ça, c'était le pique-nique d'un petit garçon. C'était la portion pour un petit garçon. La précision du verset 40, hein, dans notre passage, dit « Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50 ». Simplement pour que l'on comprenne bien qu'il n'y avait pas d'erreur dans les chiffres. Jésus rend grâce et la distribution commence. Les disciples donnent. Ils ont toujours de quoi, ils repassent dans les rangs, ils distribuent encore le rab. Voilà que maintenant, toute la foule, 20, 25 000 personnes, à manger, ils n'en veulent plus. Ils sont rassasiés. Et il y a encore 12 paniers de reste. Et là encore, le détail, c'est juste pour nous préciser que les gens étaient rassasiés de chez rassasiés. La nourriture que Jésus a créée, à partir de rien, elle est parfaite. Il n'y a personne qui dit « Oh non, moi j'aime pas le poisson ». Ou non, moi, sans gluten. Non, non, ça ne marche pas. Là, tout le monde est très content, très reconnaissant. La nourriture est très bonne. Mes amis, parmi les innombrables miracles que Jésus a opérés durant son ministère, seuls deux sont rapportés dans les 4 évangiles. La résurrection de Jésus-Christ et la multiplication des pains pour 5000. Et je pense que si chaque évangéliste a pris soin de consigner cette histoire, ce miracle, c'est parce qu'il y a une vérité ici que tout le monde doit comprendre. Quelque chose d'incontournable. Seul le Créateur de l'univers peut créer instantanément de la nourriture pour une telle foule. Ce miracle révèle la toute-puissance de Christ, sa nature divine et son pouvoir créateur. Mais il révèle aussi sa compassion et ses tendres soins. Quand on s'engage avec le Seigneur, on peut être certain d'être au bénéfice de la provision extraordinaire du Seigneur. Romains 8, 32 dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Nous connaîtrons certainement des difficultés dans le témoignage que nous nous efforçons de donner. Nous connaîtrons de l'opposition. Mais celui qui a pourvu au salut de nos âmes en donnant son Fils, comment pourrait-il omettre de prendre soin de nous et de nous secourir dans tous nos besoins? Et pourtant, juste après ce festin, Jésus ordonne à ses disciples de prendre la barque, de partir plus loin pendant qu'il renverrait la foule. La chose est faite, il s'en va sur la montagne et il prie. Qu'est-ce qu'il prie? Je supposais qu'il a prié pour la foule. Vous savez, cette foule qui a juste rempli son ventre et qui n'a pas nécessairement pour autant rempli son cœur. Cette foule qui a connu ce miracle extraordinaire et qui pourtant reviendront le lendemain pour manger à nouveau des pains et des poissons qui ne leur coûtent rien, mais qui ne croiront toujours pas dans celui qui est le pain de vie, qui peut seul rassasier nos cœurs. Et je suppose que le Seigneur prie pour cette foule, qu'ils comprennent que ce miracle qu'ils ont vu, c'est juste une petite chose du miracle que Jésus veut faire dans leur vie, personnellement. Il dit, celui qui mange ma vie, ma chair, mon sang, c'est-à-dire qui s'approprie ma vie, mon sacrifice, et qui s'en nourrit, qui croit en moi, vivra. Et son cœur sera rassasié. Les disciples sont au milieu de la mer, et puis ils ont beaucoup de mal. Le vent est contraire. Et je trouve que ça, c'est une vérité qui nous accompagne tout le temps. Le vent et les circonstances sont souvent contraires. Et Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Ils sont terrifiés jusqu'à ce qu'ils montent avec eux dans la barque et que le vent cesse. Et là, ils sont stupéfaits. Et l'évangile de Marc nous dit au verset 52, « Ils sont stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Jésus vient de se révéler d'une manière extraordinaire. Comme celui qui pourvoit, qui prend soin. Ils ont vu le miracle de leurs yeux. C'est leurs propres mains qui ont distribué les pains et les poissons. C'est leurs propres mains qui ont ramassé encore les 12 corbeilles de reste. Mais ils sont encore craintifs, inquiets et s'étonnent encore du secours de leur maître. Qu'auraient-ils pu conclure? Qu'est-ce qu'ils auraient dû conclure? Qu'est-ce qui aurait dû être leur manière de vivre cette nouvelle situation au sein de la barque et des vents contraires? Probablement qu'ils auraient dû conclure, celui qui exerce sur la nature une maîtrise telle qu'il suffisait de prendre quelques brides de nourriture pour les multiplier et rassasier des milliers de personnes, pouvait également sans difficulté imposer le silence à une mère en furie. mais on ne peut pas être trop dur avec les disciples. Avec quelle rapidité, nous aussi, nous oublions les interventions providentielles du Seigneur dans notre propre vie, au point que nous sommes franchement surpris et confus lorsqu'il nous porte à nouveau secours. On a vu la délivrance dans notre situation d'église, dans ce que nous avons vécu l'année passée avec ce bâtiment. On a vu l'intervention miraculeuse du Seigneur. Mais presque aussitôt, quand les vents sont contraires, on flippe, on a peur, on est craintif, et on a oublié la main qui dirige l'univers. On a oublié de voir à quel point le Dieu qui nous a conduits jusqu'ici est un Dieu qui est fidèle, qui est compatissant, qui est miséricordieux. De plus, si Jésus détient le pouvoir dont il a fait preuve, comment peut-on imaginer qu'il perde le contrôle de cette nouvelle situation ? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les disciples de Jésus ne peuvent pas mourir dans des accidents. Il en meurt tous les jours dans de telles conditions. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde déchu et les disciples de Jésus ne sont pas exempts des conséquences tragiques et perverses de cette déchéance. Malgré tout, dans les pires circonstances, nous devons apprendre à faire confiance à la sage providence divine. De rester dans la sage providence divine. Cette semaine, on va lire les Actes, chapitre 12. Il y a un événement, c'est Pierre qui est, Jacques, frère de Jean, qui est décapité. Arrêté, il est décapité. Et Pierre est arrêté juste après et se retrouve enchaîné dans la prison. La Bible dit qu'il dort. La veille de son exécution, il dort. Moi, je suis en train de croire ici que Pierre, il a compris cette dimension de la providence parfaite de Dieu. De sa sagesse infinie. Il peut être délivré. Comme ça. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Mais il peut, comme son frère d'armes, Jacques, être simplement décapité. Mais il est tellement confiant dans la sagesse, dans la providence de Dieu. Il lui fait confiance. Même s'il ne connaît pas l'issue, il lui fait confiance. Et je pense que dans notre vie de chrétien, on va traverser des moments difficiles. Parfois, nous connaîtrons la délivrance miraculeuse, l'intervention extraordinaire, la provision immense, généreuse de Dieu. Parfois, nous ne la connaîtrons pas. Mais que ce soit d'une manière ou d'une autre, ce que nous devons retenir, c'est une confiance absolue dans la sagesse de notre Dieu. Jésus est Dieu. Il se préoccupe des gens. Il en prend soin. Il n'est jamais dépassé par les événements. Jean-Baptiste, c'est son cousin bien-aimé. Il est l'objet de son attention. Il n'échappe pas à cette règle. Même si Jésus n'intervient pas miraculeusement en arrêtant la main du bourreau. C'est difficile à comprendre pour nous. Et c'est souvent la difficulté qu'il y a dans nos cœurs. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de dire aux disciples. Nos cœurs ne sont-ils pas aussi endurcis et lents à faire confiance au Seigneur ? La leçon de ce chapitre pourrait se résumer dans le cantique des ailes de la foi, à Jésus je m'abandonne, le refrain dit « Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. » Comptez sur lui, tout est là. Nous ne pouvons pas changer les choses, mais nous pouvons simplement nous confier en Dieu, qui va opérer dans sa sagesse infinie, dans sa provision divine, le miracle qu'il veut, nous emmener dans sa présence, nous maintenir miraculeusement en vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à saisir ces vérités pour nos vies au quotidien. Faisons confiance dans la providence merveilleuse du Seigneur.